VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 5 janvier 2016, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson, voici les titres de l'actualité ce matin.
Un nouveau gouvernement en Guinée. Le premier ministre guinéen Mamadi Youla a formé hier soir un cabinet composé pour moitié de nouveaux membres.
En RCA, une vingtaine de candidats dénoncent des irrégularités au premier tour de la présidentielle et exigent l'arrêt des opérations électorales.
Moi, la question que je retourne, c'est que l'ANE commettrait des irrégularités au profit de qui ?
Réaction ce matin du porte-parole de la commission électorale, Julius Rufin Nguadebaba.
Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie estiment que le fichier électoral du Niger peut être fiable.
Sous réserve, j'insiste là-dessus, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat.
Le président rwandais Paul Kagame dit qu'il ne se sent pas concerné par la déception des États-Unis au sujet de son projet de briguer un troisième mandat.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le fichier électoral du Niger peut être fiable. L'Organisation internationale de la francophonie, dont les conclusions étaient très attendues, a estimé ce lundi que le fichier électoral en vue de la présidentielle du 21 février était fiable sous réserve de la suppression de plusieurs centaines de mineurs et de bureaux de vote illégaux. Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie magazine.
Un nouveau gouvernement en Guinée, le premier ministre Mamadi Youla a formé hier soir un cabinet composé pour moitié de nouveaux membres. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ce gouvernement comprend aussi plusieurs femmes à des postes importants, tels que l'économie et les affaires étrangères, selon un communiqué de la présidence. La nouvelle ministre de l'économie et des finances est Maladou Kaba, âgée de 44 ans. Selon le communiqué, elle a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à la Commission européenne dans le domaine du développement. Makale Kamara, ancienne ministre de l'agriculture sous le régime militaire du président, Lassana Conté devient ministre des affaires étrangères. Le président Alpha Condé a débuté le 21 décembre son second mandat et nommé 5 jours plus tard, un nouveau premier ministre, Mamadi Youla, 54 ans, issu du secteur privé, en remplacement de Mohamed Saïd Fofana. La passation des pouvoirs s'est déroulée le 30 décembre.
En Côte d'Ivoire, le ministre de la Justice clarifie les grâces pour les détenus annoncées par le président dans son discours de Nouvel An, soulignant qu'une centaine de détenus de la crise post-électorale allaient bénéficier de liberté provisoire dans l'attente de leur jugement. Les précisions de Tatiana Mosso.
Dans son discours à la Nation, le président avait assuré s'être engagé personnellement en faveur de la réconciliation nationale et s'était félicité de la libération provisoire de détenus de la crise post-électorale. Juste après, il avait annoncé user de son droit de grâce, soulignant que la mesure concernait 3100 personnes, générant une confusion sur ce qui allait bénéficier de la mesure. En fait, la grâce concerne essentiellement des prisonniers de droit commun, même si une poignée de personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale pourront en bénéficier. La plupart n'ont pas encore fait l'objet de jugement. Il y en a 234 au total. Il y en a une centaine à qui les juges ont estimé pouvoir accorder la liberté provisoire, a indiqué M. Koulibaly. Le ministre a précisé que l'ensemble de la population carcérale avant la grâce s'élevait à 12 000 détenus pour 7 000 places et donc qu'un quart des prisonniers allaient être libérés. Pendant la campagne, l'opposition qui a sans cesse réclamé la libération des prisonniers politiques a reproché à Ouattara de ne pas avoir réconcilié le pays et de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. L'opposition est déçue, ce sont les prisonniers de droit commun qui vont être graciés, mais quant aux prisonniers politiques, cette grâce ne résout pas le problème, avait estimé le 31 décembre Séry Gouagnon, membre du parti de l'ancien président Gbagbo.
Une vingtaine de candidats à la présidentielle en Centrafrique exigent l'arrêt des opérations électorales et dénoncent une mascarade après la publication de résultats partiels donnant une avance confortable à un outsider proche de l'ex-président Bozizé. Nous reviendrons également sur ce sujet dans la deuxième partie de cette édition.
Le président rwandais Paul Kagame dit qu'il ne se sent pas concerné par la déception des États-Unis au sujet de son projet de briguer un troisième mandat. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chef de l'État rwandais a écrit dans une série de messages sur Twitter lundi que des problèmes de l'Afrique, la pauvreté, les maladies, la gouvernance et la technologie, etc., ne seront pas aisément résolus par l'attitude affichée par les États-Unis. Beaucoup de choses décevantes arrivent dans le monde et nous espérons porter notre fardeau et non celui des autres, a ajouté le président Kagame. Dans une déclaration publiée samedi, le porte-parole du département d'État américain John Kirby avait souligné qu'avec sa décision de briguer un troisième mandat, le président Kagame rate une occasion historique de renforcer et solidifier les institutions démocratiques que le peuple rwandais s'est échiné à édifier pendant plus de 20 ans. Washington avait exhorté le président rwandais de ne pas modifier la constitution pour solliciter un troisième mandat en 2017. Lors du référendum du 18 décembre, les Rwandais ont voté à plus de 98% en faveur des changements permettant à Paul Kagame de renouveler son mandat à la tête du pays.
L'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, a rouvert officiellement ses portes lundi. C'est sur ce campus que 148 personnes avaient été tuées en avril 2015 par un commando de militants islamistes somaliens, Shebab.
La nouvelle chaîne d'information consacrée à l'Afrique, Africa News, a été lancée ce lundi. Pour l'instant, sous la seule forme d'un site internet en français et en anglais, selon l'AFP, Africa News a l'ambition de fournir de l'information sur l'Afrique et sur le monde d'une perspective purement africaine depuis son siège provisoire de Pointe-Noire en République démocratique du Congo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe djihadiste État islamique a mené hier deux attaques à proximité d'importantes installations pétrolières en Libye, dans les villes d'El Sedra et de Ras Lanouf. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un membre des forces libyennes. Un responsable du secteur pétrolier libyen a indiqué qu'un réservoir d'une capacité de 420 000 barils de pétrole a pris feu lors des affrontements au sud de Ras Lanouf.
14 personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées en Chine ce matin dans l'incendie d'un bus. Selon l'AFP, citant les autorités locales, le véhicule a pris feu soudainement après près d'une place publique à Yinchuan, dans le nord. La cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête, précise la même source.
La crise avec l'Iran ne devrait avoir aucun effet sur les efforts de paix en Syrie et au Yémen. Déclaration de l'ambassadeur saoudien à l'ONU, Abdallah Al-Mualimi. Selon l'AFP, il a annoncé en particulier que Riyad ne boycottera pas les prochains pourparlers de paix sur la Syrie. Il a cependant mis en doute devant des journalistes la volonté de l'Iran de promouvoir la paix en Syrie, estimant que Téhéran n'avait pas beaucoup soutenu ses efforts de règlement. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques contre les représentations saoudiennes en Iran.
La Suède et le Danemark ont dressé de nouveaux obstacles sur la route des migrants cherchant à obtenir l'asile dans ces pays. Pour la première fois depuis l'accord signé il y a un demi-siècle pour garantir la libre circulation des personnes entre les pays nordiques, la Suède impose pour entrer sur son territoire la présentation d'une pièce d'identité à tous les voyageurs arrivant du Danemark, lequel a aussitôt réagi en instaurant des contrôles à la frontière allemande. Ces nouvelles restrictions ont attiré les critiques de l'Allemagne pour qui Schengen est en danger.
Les autorités américaines ont annoncé hier l'arrestation de 121 adultes et enfants en situation irrégulière pour les rapatrier vers l'Amérique centrale. Les migrants originaires d'Amérique centrale sont logés dans des centres d'accueil pour familles gérés par les services de l'immigration avant d'être placés dans des vols de retour vers leur pays d'origine, a précisé Jay Johnson, le secrétaire américain à la sécurité intérieure.
Le président Barack Obama a défendu hier ses projets de renforcement du contrôle des armes à feu sans passer par le Congrès. Il démontre ainsi clairement son intention d'accorder la priorité à l'un des problèmes les plus difficiles en Afrique, Michel Joseph.
Le président veut utiliser son pouvoir réglementaire pour faire passer ses idées pour sa dernière année au pouvoir en contournant le Congrès où il s'est toujours heurté à une forte opposition chaque fois qu'il a exigé des restrictions suite à diverses fusillades de masse aux États-Unis. Et cette opposition vient non seulement de ses adversaires républicains, mais également des membres de son propre parti démocrate. Pour le président, ils sont tous à la merci du puissant lobby des armes à feu, la NRA, National Rifle Association. Or, une majorité d'Américains appuie, a expliqué M. Obama, les mesures qu'il proposait. Parmi elles, l'obligation pour un plus grand nombre de vendeurs d'armes d'avoir un permis de vente et aussi de procéder à la vérification des antécédents des acquéreurs. M. Obama n'a pas dévoilé la liste de recommandations qu'il compte faire dans les jours à venir, mais il a tenu à préciser qu'elles seront conformes à ses pouvoirs présidentiels et aux droits constitutionnels des citoyens d'acquérir des armes à feu. Les Américains, il faut le rappeler, sont profondément divisés sur la question, bon nombre d'entre eux estimant que toute tentative de contrôle constitue une atteinte possible à leurs droits.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Anastasie Toudies.
Le ministre de l'électricité du Ghana, Kwabena Dankor, a démissionné de son poste le 31 décembre. En février 2015, il s'était engagé à démissionner si la crise électrique qui secoue le pays n'était pas résolue avant la fin de l'année. Un communiqué du ministère avait même annoncé la fin du programme de délestage électrique, une annonce qui ne correspondait pas à la réalité du terrain, situation qui a fortement déplu au président John Dramani Mahama. Le ministère de l'électricité avait été créé précisément en février 2014 pour répondre à une crise électrique qui court depuis 2012, selon l'agence Reuters. Et selon les estimations de la Banque mondiale, le Ghana perd en moyenne un point de croissance par an du fait des fréquentes coupures d'électricité. Le Mali a produit 50 tonnes d'or en 2015, dont 46 tonnes par voie industrielle et 4 par orpaillage traditionnel. Le pays projette encore d'augmenter sa production cette année et le début de l'exploitation du gisement de Kofi par le Canadien Endeavour Mining est imminent. La mine de Kofi à l'ouest du pays, inaugurée en avril et dont les réserves sont estimées à 7,7 tonnes, doit produire 1,8 tonne d'or par an, selon le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Elle est rattachée à la mine de Tabakoto, à 350 km de Bamako, en activité depuis 2006. Le groupe financier ivoirien Phoenix Africa Partners Holding, PAPH, rachète 80% de Batim Côte d'Ivoire, entre autres, au géant marocain de l'assurance, Saham, pour un montant qui n'a pas été révélé. PAPH, premier opérateur privé en Côte d'Ivoire, affiche un portefeuille de 10 projets de construction et d'opérations immobilières en cours pour une enveloppe globale de 35 milliards de francs CFA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Jean-Roger Bion.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football en Afrique. La CAF, la Confédération africaine de football, lève l'interdiction des rencontres continentales en Guinée.
Oui, la nouvelle est tombée ce lundi et met donc fin à cette interdiction qui était en vigueur depuis août 2014. Elle est consécutive à l'annonce de l'OMS le 29 décembre dernier, déclarant la fin de la transmission d'Ebola en Guinée.
Premier match ce mardi pour Zizou en tant qu'entraîneur du Real.
Zinedine Zidane, le nouvel entraîneur du Real Madrid, entame sa première journée à la tête de l'équipe première avec le double défi de remettre le club à flot et de s'affirmer en capitaine aguerri. Avec un entraînement ouvert au public à 11h, heure locale, puis une conférence de presse de présentation à 13h30. C'est un premier jour chargé qui attend Zidane, propulsé lundi soir sur le banc meringue après l'éviction de l'Espagnol Rafael Benitez.
Le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur allemand, mais d'origine sénégalaise.
C'est une offre record de Manchester City pour Leroy Sané, l'attaquant international de Schalke 04. Le club anglais est sur le point de libérer 55 millions d'euros pour le jeune talent de 19 ans. Leroy Sané est le fils de l'ancien international sénégalais Souleymane Sané qui a fait sa carrière en Bundesliga.
Toujours en football, Barcelone peut encore recruter.
Oui, la FIFA a levé la sanction d'interdiction de recrutement pendant 2 mercato successifs contre le club catalan pour des infractions dans les transferts de mineurs. Alex Vidal et Arda Turan vont pouvoir jouer après avoir formellement intégré le Barça l'été dernier.
En athlétisme, l'Allemagne criminalise le dopage.
Désormais, les sportifs dopés ou détenteurs de produits dopants encourent jusqu'à 3 ans de prison. Ces peines peuvent s'élever jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour ceux qui procurent aux sportifs des produits dopants, dont les entraîneurs et les docteurs.
Et bien, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Défaite de Toronto 100-122 face à Cleveland, l'équipe de LeBron James. Minnesota chute contre Philadelphie 99-109. Boston a su contre les Brooklyn Nets de New York 103-94. Lourde défaite d'Orlando qui affrontait Detroit 115-89. Défaite de justesse d'Indiana contre Miami 103-100. San Antonio a écrasé Milwaukee 123-98. Et enfin, Sacramento a eu raison de Oklahoma City, 116-104.
Merci Jean-Roger.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. En République centrafricaine, une vingtaine de candidats faisant état d'irrégularité au premier tour de la présidentielle exigent l'arrêt des opérations électorales. Une déclaration faite après la publication des résultats partiels du scrutin du 30 décembre. Au micro de Nathalie Barge, la réaction du président du groupe de réflexion washingtonienne Central African Committee Council, Eugène Pewa Pelema.
Je savais que ça allait se passer un peu de la sorte. Les conditions des élections en Centrafrique n'étant pas réunies au départ, je faisais partie de ceux qui, justement, estimaient qu'il fallait attendre un moment pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, de nombreux leaders politiques ont préféré y aller et leur mot, c'était « allons-y seulement ». Et aujourd'hui, en fonction des résultats qu'ils ont faits, ils se plaignent, justement, des difficultés que des élections dans des conditions telles qu'elles sont étaient inévitables.
Est-ce que vous pensez, justement, que c'est par rapport aux résultats qu'ils ont eus, qu'ils réagissent?
Ben écoutez, selon la logique sur le plan politique en Centrafrique, les gens sont étonnés des résultats qui sont tombés, puisque même la presse internationale parlait de favoris en Centrafrique, et les gens sont étonnés. Bon, maintenant, moi je ne suis pas sur le terrain, peut-être que sur place il y a eu des problèmes sur le plan électoral, mais les gens n'en ont pas parlé, et c'est maintenant que les résultats sortent qu'ils se plaignent, et ça c'est un problème quand même assez sérieux.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être suivi par la population dans une telle demande ou pas du tout?
Bon, moi, je ne pense pas que la population les suive parce que, bon, il faut constater que depuis la crise, les leaders politiques étaient très absents de la vie politique du pays et n'essayaient pas de s'inquiéter du devenir de la population. Les populations souffrent dans leur chair. Pendant la transition, les politiciens étaient absents et c'est seulement pendant les élections qu'on les revoit apparaître. Donc, je ne pense pas que ces gens qui ont souffert pendant presque 3 ans maintenant et des années en avant, du moins il y a plusieurs années, vont suivre les démarches des hommes politiques.
Est-ce que cette nouvelle des candidats qui contestent pourrait vraiment remettre en question le second tour?
Non, je ne pense pas. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que les électeurs de certains de ces candidats ne vont peut-être pas aller voter. Mais je pense que le processus qui est enclenché va se tenir jusqu'à la fin. Et comme il le disait, la plupart des candidats disaient que qui paye commande. La communauté internationale a investi dans ces élections. Il aurait fallu, avant les élections, s'y opposer. Mais maintenant que c'est enclenché, je vois très mal comment cela, le cours puisse être changé.
L'analyse sur les 3 candidats en tête, comment vous voyez cela?
Il y a une très grande surprise. Je pense que c'est l'ancien Premier ministre Touadéra qui, pour beaucoup de gens, les gens ne l'attendaient pas à ce niveau.
Mais comment vous l'expliquez cela alors, vous?
Ben, il y a 2 façons de l'expliquer. Je pense que où les gens ont voulu, d'une certaine manière rompre avec les habituels hommes politiques en Centrafrique, vu ce qu'ils ont connu depuis des dizaines d'années. Ils ont voulu prendre quelqu'un qui n'était pas réellement un politicien, puisque M. Touadéra, c'est d'abord un professeur de mathématiques, c'est vrai. Il a été Premier ministre sous le régime de François Bozizé, mais il n'a jamais été réellement perçu comme un politicien. Bon, ce que je connais de l'homme, c'est que c'est un homme calme, c'est un homme humble, assez simple, c'est ce que je peux dire.
Voilà, c'était Eugène Pewa Pelema du Central African Committee Council ici à Washington. Et que disent sur place les autorités au sujet de ces contestations? Eh bien, Pascaline Magalé a pu joindre le porte-parole de l'ANE, la commission électorale, Julius Rufin Nguadebaba, pour plus d'éclaircissement.
J'ai suivi cette information, j'ai lu la déclaration. La question que je vous posais, c'était que si l'ANE devrait commettre des irrégularités, il aurait fallu qu'il y ait un bénéficiaire de cette irrégularité-là. Alors, moi, la question que je retourne, c'est que l'ANE commettrait des irrégularités au profit de qui? Ça, c'est d'un. De deux, je note une chose. Ce processus électoral, l'Autorité nationale des élections l'a conduit, n'est-ce pas, avec l'implication de tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, qui, au travers du cadre de concertation, ont accompagné l'ANE dans toutes les orientations, dans toutes les décisions que l'Autorité nationale des élections a prises. Aujourd'hui, il y a un mécanisme de comptage, de compilation, de consolidation des résultats. Ce mécanisme se fait, nous l'avons annoncé, en présence des représentants des candidats qui étaient déjà au préalable dans les bureaux de vote, qui ont apposé leur signature sur les procès-verbaux. Et donc aujourd'hui, je me surprends avec vous de ces allégations, et je pèse mes mots en parlant d'allégations, de ces allégations qui, d'ailleurs, n'ont pas été précisées. On me parle d'irrégularité, on me parle d'intimidation, on me parle de manipulation. Bon, ce sont des mots assez graves qu'il aurait fallu quand même donner des éléments de preuve, des éléments qui sous-tendent ces accusations. Donc, l'Autorité nationale des élections reste sereine, mais je voudrais, au nom de l'Autorité nationale des élections, lancer un appel à toutes les personnes qui auraient des reproches à faire à ce processus d'utiliser les voies légales qui sont prévues, qui sont en fait la saisine de la Cour constitutionnelle après que l'AME rende public les résultats qui ne sont que provisoires.
Comment ça se passe au niveau des législatives?
Au niveau des législatives, nous compilons les résultats des législatives autant que les résultats des présidentielles. Nous avons commencé la publication avec les présidentielles, mais ces publications se poursuivront par les législatives aussi.
Voilà, c'était Julius Rufin Nguadebaba, porte-parole de la Commission électorale centrafricaine, au micro de Pascaline Magalé.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie partis au Niger sur demande de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour auditer le fichier électoral, ont rendu hier après-midi leur verdict. Il ressort de ce rapport que de nombreuses anomalies ont été constatées, comme par exemple plus de 320 bureaux de vote sans électeurs, près de 40 000 mineurs inscrits, plus de 234 000 inscrits sans lieu de naissance ou 16 000 autres sans date de naissance, plus de 25 000 doublons. Pour tout cela, l'équipe du général Siaka Sangaré a recommandé une correction dans l'immédiat, faute de quoi le fichier électoral ne peut être jugé bon. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le fichier électoral de 2015 qui a été soumis à notre contrôle peut être valablement utilisé et fiable pour la tenue des élections, mais sous réserve, j'insiste là-dessus, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat.
Et les recommandations, les voici.
Il y a l'extraction et la radiation des électeurs mineurs. On a trouvé 16 000 et quelques. Il faut les extraire et absolument, on ne peut pas faire voter ceux qui sont mineurs. Sinon, c'est une violation flagrante de la loi. Ensuite, il y a la confirmation et la radiation des multiples inscriptions. Il y a la suppression des 323 bureaux. Là, nous l'avons déjà pratiquement fait parce que comme c'est des bureaux qui ne contiennent pas d'électeurs, pour nous, ce ne sont même pas des bureaux de vote. Ensuite, création d'un identifiant. Je l'ai dit, ça, il faut le faire rapidement. Ensuite, reprise de la numérotation des bureaux de vote et également des électeurs. Et à publier après le traitement des anomalies, en fait, le répertoire des bureaux de vote par tous les moyens. En mettant le répertoire sur Internet, cela est un gage de transparence et également permet aux candidats de pouvoir vérifier l'existence et le contenu de chaque bureau de vote. Ensuite, publier les listes électorales sur Internet, oui, et envoyer par SMS les références des électeurs. Prévoir un niveau de sécurité pour l'authentification des cartes d'électeurs.
Pour la majorité, il n'y a rien de nouveau par rapport au premier audit conduit par un cabinet nigérien, Mohamed Bazoum, président du parti au pouvoir.
L'audit a confirmé un peu ce qu'on savait et qui avait été déjà repéré par l'autre audit national que nous avons mis en place. Vraiment, je voudrais me réjouir de ces conclusions et je crois que nous sommes totalement prêts désormais pour faire le travail de la CENI et souhaiter que tout cela se passe vite, de façon que nous tenions les élections aux dates qui sont programmées.
La satisfaction est totale du côté de l'opposition, dit Ousseini Salatou, un des porte-parole.
Sous réserve des recommandations qui ont été faites, nous sommes prêts pour les élections. Dieu merci. Nous pensons que ce que nous avons demandé, nous ne l'avons pas demandé pour l'opposition, nous l'avons demandé pour le peuple nigérien. Aujourd'hui, vous avez remarqué dans la salle, que ce soit acteur politique, que ce soit acteur de la société civile, que ce soit citoyen tout simple, tout le monde est réconforté par le travail qui a été fait.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Venons-en maintenant à cette crise Iran-Arabie Saoudite. Les États-Unis appellent à la retenue. Le secrétaire d'État John Kerry a téléphoné à ses homologues des deux pays ce lundi pour les exhorter à prendre les mesures nécessaires pour faire baisser la tension. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec l'ambassadeur John Limbert, ancien diplomate américain à Téhéran. Pour l'ambassadeur Limbert, l'Iran et l'Arabie Saoudite avaient de mauvaises relations, mais les deux pays n'étaient jamais allés aussi loin dans leur confrontation.
Rompre les relations est une grave situation. Malgré la multitude de problèmes existants dans le passé et des problèmes de longue date, aucune des parties n'avait franchi l'étape finale de la rupture.
C'est donc une nouvelle situation, a dit l'ambassadeur Limbert. Les États-Unis sont dans une position difficile dans ce conflit entre l'Arabie Saoudite, alliée de toujours, et l'Iran, avec qui les puissances mondiales ont conclu un accord historique portant sur le contrôle de son programme nucléaire. Washington n'a aucun moyen de pression sur l'un ou l'autre pays, estime l'ambassadeur Limbert.
There are elements in both countries.
Il y a des gens des deux pays qui veulent faire monter la tension et qui cherchent une confrontation. Et je pense qu'il y a sûrement ceux qui ne veulent pas la confrontation.
Pour l'heure, ce sont les extrémistes des deux camps qui semblent contrôler la situation, a noté l'ambassadeur Limbert. Même si les États-Unis le voulaient, ils ne peuvent rien faire pour l'Iran, pense l'ancien ambassadeur américain.
Well, the United States is not going to be in the position of rescuing Iran.
Dans tous les cas, Washington ne peut pas sauver les Iraniens de leurs propres erreurs. Ils ont foncé dans le piège tendu par les Saoudiens dans l'affaire de l'incendie de leur ambassade.
Des voix se sont élevées au sein du gouvernement iranien, y compris celle du président Rouhani, pour condamner l'incendie de l'ambassade saoudienne, et c'était nécessaire, a dit l'ambassadeur américain. Cet incident lui a rappelé sa propre expérience iranienne. Il faisait partie des diplomates américains pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran en novembre 1979 et retenu pendant 444 jours.
C'est très triste. C'est à se demander si certaines personnes en Iran, après 35-36 ans, n'ont toujours rien appris.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin donc de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. Présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez l'essentiel de nos informations sur notre site internet voafrique.com et aussi sur notre page Facebook. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.